France Musique.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Le chemin qu'a dessiné Felicia Atkinson est fait de multiplicité de disciplines, mélangeant avec dextérité sa recherche plastique et musicale. Une quête volontairement éclatée et disparate qui interroge sur les lieux et déplacements du sonore, mais aussi sur la place du livre et du disque comme espace d'exposition. Elle est l'invitée de ce tapage nocturne.
Bruno Le Thor et François Bonnet, tapage nocturne. France Musique.
Mais comme il est de coutume dans cette émission, nous ouvrons la page des pépites phonographiques.
Oui Bruno, et je vous propose d'écouter une madeleine sonore encore chaude, car elle date de 2012 et on la doit à Aaron Dilloway et Jason Lescalite. L'album sorti sur le label Pan s'intitule Grapes and Snakes. Alors pourquoi convoquer ces deux figures hyperactives de la scène noise expérimentale américaine? Eh bien parce que l'un d'eux, en l'occurrence Dilloway, se produira le week-end prochain à l'occasion de l'Audible Festival à l'Échangeur de Bagnolet, en compagnie de compositeurs et compositrices tels que Yana Vinderen, Francisco Lopez, Michel Chion ou encore Félix Cumin. En attendant, plongeons-nous dans cette musique dense et obscure, une musique stonienne, mettant notre écoute en alerte. Aaron Dilloway, Jason Lescalite, Grapes and Snakes. Nous venons d'écouter un extrait de l'album Grapes and Snakes de Aaron Dilloway et Jason Lescalit. Aaron Dilloway sera en concert dans le cadre de l'Audib Festival ce dimanche 18 septembre à l'échangeur de Bagnolet.
Pour ma part, c'est un enregistrement de 2005 que j'ai ressorti de ma discothèque consacrée à Jacinto Chelsea. Et dans ce disque monographique, on peut y découvrir un Ave Maria, une œuvre assez décalée du reste du riche catalogue du compositeur italien. Composée en 1970, elle fut d'abord destinée à être interprétée par une voix ou un chœur, avant d'être transcrite par le compositeur pour violoncelle. Baptisée Trois pièces latines, cette œuvre était pour Chelsea une sorte d'hommage à la liturgie catholique et à la tonalité. Ave Maria de Jacinto Chelsea, interprété par Frances Marie Witty au violoncelle. Ave Maria de Jacinto Chelsea, interprété par Frances Marie Witty au violoncelle, paru sur le label ECM en 2005.
France Musique.
Créatrice indisciplinée et inspirée, Felicia Atkinson navigue entre les disciplines artistiques pour voguer selon un sillage propre, fait de rencontres, de dérives et où se mêlent performances, installations, musique et travaux plastiques, laissant ses sens toujours aux aguets absorber puis exprimer un monde de sons et de couleurs qui s'assemblent, se retrouvent et se déplient. À l'occasion de sa venue dans le studio 107 de la Maison de la Radio, Felicia Atkinson nous propose un live où elle expose en avant-première des éléments de son prochain album. Felicia Atkinson est l'invitée de ce tapage nocturne. Felicia Atkinson, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez étudié l'anthropologie, gravité dans la sphère de la danse, fait les Beaux-Arts de Paris. Comment êtes-vous rentrée dans le monde de la musique ?
J'ai quand même étudié petite la musique au conservatoire du centre de Paris, à partir de 4 ans. Et en fait, j'avais été touchée par la méthode Martenot. Et puis, quand j'ai commencé le solfège, je me suis sentie très mal. J'ai continué à faire de la harpe jusqu'à 14 ans. Et puis, j'ai complètement arrêté. Je me suis mis à faire du théâtre et de l'improvisation et j'ai osé reprendre la musique à peu près 10 ans après, quoi.
Qu'est-ce que la musique permet d'explorer par rapport aux arts visuels qui sont votre première formation, on va dire.
Ben, je dirais l'invisible, justement. Voilà, c'est ça qui m'intéressait d'emblée le plus. Et un rapport au temps, qui est quelque chose de plus difficile à aborder dans les arts visuels.
Par rapport à ces arts visuels, dans votre musique, un aspect semble quand même commun, c'est, on peut dire, l'aspect conceptuel. Est-ce que c'est important dans la jeunesse de vos projets musicaux ?
Oui, dans le sens où j'ai besoin de construire le projet. À chaque fois, j'organise un disque un peu comme je penserais à un voyage ou une installation, c'est-à-dire que je choisis un environnement à la fois un peu théorique, c'est-à-dire des questions que j'ai envie d'aborder dans le disque, des choses comme ça, qui se mélangent avec beaucoup aussi d'improvisation finalement. Donc voilà, le concept permet ensuite d'être un petit peu désordonné.
Vous évoquez parfois le déplacement du sonore. C'est quoi exactement le déplacement du sonore ?
Et ben pour moi, c'est vrai que maintenant il faut que je réfléchisse à ça. Par exemple, je travaille beaucoup dans le train. Le train me fascine parce que il y a différentes couches de sons en même temps. Même si je travaille au casque, j'écoute la conversation de la personne derrière moi. Je vais écouter peut-être des prises de sons que j'ai faites dans un paysage qui n'est pas celui dans lequel je suis. Et cette idée de prendre avec soi des éléments, littéralement les déplacer, les migrer en fait, de leur donner un contexte au départ non attendu, c'est quelque chose qui est très important en fait, tout simplement. Que les sources se déplacent.
Pour parler de votre travail, dans l'un de vos derniers disques, Comme un seul narcisse, composé avec Geoffrey Cantoulet-Desma, vous employez le protocole de la correspondance épistolaire et la figure baudelairienne du flâneur pour initier cette composition. Mmh. C'est toujours armé de références signifiantes que vous abordez un travail ?
Mais en fait, ça vient après coup. Enfin, ou même peut-être à mi-chemin. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, ce disque avec Geoffrey Cantou, quand il m'a proposé d'échanger des sons, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus industriel. On voulait faire de la noise industrielle années 80. Et au départ, on s'est envoyé des boucles, des cris, des choses assez noise et brutales. Et puis, à mi-parcours, il y a quelque chose d'autre qui est apparu, et c'est en écoutant ces choses-là que finalement, et en échangeant, qu'on s'est dit mais tiens, c'est drôle parce que le flâneur il observe à la fois ce qui l'entoure du monde moderne et en même temps il y projette des affects, des sensations. Et je pensais aussi beaucoup à Suzanne Sontag qui écrit sur la photographie, sur le comment se trouver dans l'image de l'autre, etc. Et je me disais, bah, finalement, le monde digital aujourd'hui, il repose ces questions-là. Donc voilà, c'est souvent un mi-chemin. C'est pas vraiment un alibi, mais c'est plutôt tout d'un coup d'essayer de contextualiser quelque chose qui est en train d'arriver.
Littérature, les fragments, les traces, c'est aussi des éléments importants dans votre travail sonore.
Oui, ouais. C'est par période. Je pense qu'il y a des moments où je suis dans une recherche plus abstraite et parfois plus narrative. Et en ce moment, je pense beaucoup à ces questions d'audiobook. Et finalement, j'en achète de temps en temps des disques de relaxation des années 70, des récits. Même romanesques qui sont enregistrés. Et je pense que c'est évidemment lié d'abord à des chocs enfants, d'écouter des audiobooks, je sais pas, les Trois Mousquetaires ou Pierre et le Loup. Et cette fascination quand même dans l'audiobook, pour moi, enfin, en tout cas, je suis fascinée par le fait qu'à travers une histoire, on peut passer des sons qui sont au départ complexes. Et voilà. Et donc, finalement, la narration, elle permet d'amener des choses qui sont beaucoup moins narratives et qui sont un peu comme des cailloux dans une rivière que finalement les gens acceptent parce qu'il y a un petit récit.
Alors ce tissage entre les arts, les disciplines, on le retrouve également dans votre projet de plateforme éditoriale Shelter Press, que vous co-dirigez avec Bartholomé Sanson. C'est important aussi d'être de l'autre côté de la pratique artistique, au niveau de la diffusion, de la promotion,
sens noble. Oui, c'est fondamental parce qu'on ne travaille pas seul. Et notamment, enfin, je trouve que ce qui est passionnant dans le monde de la musique, c'est la question de la scène. C'est qu'on fait partie d'une scène. Et du coup, faire les disques des autres, c'est un peu définir une cartographie, quoi, de gens qui comptent pour nous. Et de temps en temps aussi leur demander des projets un peu hybrides, où on leur demande et d'écrire un livre, je pense à Benvida par exemple, et de faire un disque, puis deux. Donc c'est aussi de mener une recherche ensemble sur différents supports.
Vous considérez cela comme un espace d'exposition ?
Oui, oui, parce que nous nous intéressons tous les deux, Bartholomé et moi, à des gens qui voient le disque comme pas un support promotionnel pour faire des concerts, mais vraiment un espace où certaines choses ne sont possibles que dans l'espace du disque et qui vont résonner au moment du concert, qui vont se répondre. Mais
vous l'appliquez à vous-même également ?
Oui, ouais, ouais, ouais.
Vous avez beaucoup enregistré.
Oui, bon, il y a un moment, j'étais fascinée par toute cette scène DIY où on peut faire autant de cassettes qu'on veut, et j'aimais beaucoup l'idée du notebook, c'est-à-dire vraiment de faire des fanzines musicaux finalement, et cette idée aussi de faire des choses vraiment mineures, et ça m'a complètement libérée. Parce qu'avant, j'avais vraiment peur de faire des disques parce que je me disais, il faut que ce soit important. Et puis voilà, j'ai dédramatisé.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne, France Musique.
Alors le 28 septembre prochain, vous présentez à l'Université de Bretagne Occidentale une exposition intitulée Dinosaur Acts. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pour en dire un petit peu. Alors le titre fait référence à une chanson de L'eau, groupe d'indie rock qui existe depuis les années 90 et qui m'a toujours marquée parce qu'ils chantaient et jouaient très lentement. Et même si c'était très pop, il y avait vraiment un rapport un peu inquiétant au rythme, et puis même avec cette mythologie sur eux autour du fait qu'ils soient mormons. Et il y a cette chanson qui s'appelle « Dinosaur Act », et l'idée d'un acte qui soit un dinosaure, je me disais « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et c'est partie de cette énigme-là, d'aussi d'une visite de la forêt pétrifiée en Arizona, où les arbres se sont transformés en pierre. Et à partir de cette question de temps, de delay, en fait, je me suis mis à réfléchir à la notion de delay, une chose qui serait là dans une résonance, dans un écho. J'ai construit une pièce sonore que je vais présenter, dont certains extraits, les moments narratifs du live que j'ai fait, viennent de là. Une espèce de roman bizarre, un peu Pulp Fiction, que j'ai écrit comme ça, que je suis en train d'écrire. Et puis il y aura d'autres éléments plus visuels. Voilà.
Merci Félicie Atkinson.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
classes I am teaching. Be more specific and clear about video projections of painting. Time and I, when and while I, and you, where I think of you instead of thinking of what I am teaching. Time and I, when and while I, last Monday. Une table en frêne ovale, deux verres de saké, la nuit qui tombe sur le désert qui embrasse le parc de Joshua Tree. En anaphone, très plat, plus semblable à un carré de soie qu'à un objet technologique, et presque posé, froissé, semi-flottant, en framince lévitation, l'objet souple dégage une faible luminescence verte, signe qu'il enregistre. Les deux hommes, l'un d'une cinquantaine d'années et l'autre d'une vingtaine de plus, croisent chacun les jambes sur de larges chaises orange foncé qui tournent. Leur bouche est un peu pâteuse, sans doute à cause du silence. Un serpent lourd aux yeux globuleux qui s'étale, avec paresse, autour d'eux. Ils ne se regardent pas vraiment. Ils fument. Ils ont chacun conscience de ce qu'ils ont acquis avec labeur, le sentiment d'être important. Il a fallu grossir, lire, fumer, aimer, désavouer, voler, croire. Attraper, tenir, dénoncer, boire, peser, manger, échanger, appuyer, acheter, ignorer, mentir, remplacer. Ils y sont arrivés. Ils se tiennent maintenant comme en haut d'une acropole commune et invisible, un spectre de redescente inévitable qu'ils tentent de chasser d'un coup de paupière. Les étoiles pointent vers les petits cactus chola. Semblable à des personnages de bande dessinée. Vaguement maléfique. Créature d'un monde sous-marin, d'une autre hémisphère,
ou la sécheresse, n'avait pas poussé de cri. Petit Nemo,
migré dans le désert.
Danseur,
au pied,
le genou
plié, relevé.
Il semble sauter,
en faisant une ronde cramée.
Puis, disparaissent peu à peu dans la pénombre. Il est 17h. Un vinyle d'Alice Coltrane tourne, plus rapidement que les chaises, dans l'air, en biais. Saturne, sans anneau ni platine. Leur vinyle et la technologie à la mode cette année-là. Derviche fakir brillant, il semble être amplifié par l'énergie des succulents. Il est honnêtement difficile de localiser aussi les enceintes dans ce salon fait d'alcôve et de creux dans le sol. Ici, le niveau sonore est totalement fort dans sa vibration binaurale, comme si le son partait de l'intérieur du corps plutôt que d'une source particulière. Depuis les oreilles, voire même les narines.
large tortue de terre semble reculer en longeant la baie vitrée. C'est presque trop d'informations pour le journaliste qui scanne chaque détail de cet environnement si construit. Et pourtant, tout semble si lent. On entend de temps à autre un coyote. Pourrait avoir un pied dans un film d'espion.
Bruno Le Thor et François Bonnet.
Chaque chose semble à sa place et assujetti à une fonction secrète.
Tapage nocturne.
Un petit peu décalé.
France Musique.
À part peut-être Eldon, vieux chien loup, qui somnole près du feu. Ses yeux bleus clairs aux pupilles triangulaires. Un chien loup dans le désert. Quel est son lien avec la tortue? Tout s'offre ici, en effet, en une mélodie symbolique et concave, résonnante, creuse. Se découpant comme une ombre solide, incarnée et surgissante, quasi grecque, depuis le rêve d'un autre. De temps en temps, Aya, la femme de Damien Carré, l'homme interviewé à la vaste enquête, poursuit une porte glissante.
Pick 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 p Thank you.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était Pascal Bénard, Martin Delafosse, Andy Loupentier, chargé de réalisation Bruno Ruy-Maillard, attaché d'émission Squazik Noël.
France Musique.
Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Al Abrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.